Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, Fréquence École, association à l'éducation aux médias à la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche, dans le cadre d'une conférence animée par Christophe Doré qui intervenait sur le thème « Parentalité, accompagner l'usage des écrans à la maison ». Puis nous recevons Jean-François Bonin, responsable France Alzheimer de l'antenne de Villefranche, véritable pôle d'information et d'orientation pour les aidants familiaux. Et en conclusion, Florence Raymond est l'une des 10 artistes invitée à l'espace Cornil, annexe du musée Baldini à Villefranche, dans le cadre d'un été contemporain. Calade, le journal. La société est prête. Tel est le mot d'ordre du gouvernement pour défendre le projet de loi de bioéthique. Ce texte, qui prévoit de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, sera présenté donc au Conseil des ministres le 26 juillet prochain. Ce week-end, la ministre de la Santé a précisé les contours de cette réforme explosive dans le journal du dimanche. Très feutrée dans ses déclarations, Agnès Buzyn martèle que ce n'est pas une loi de combat, mais un texte élaboré après une large consultation et qu'elle entend les oppositions et les respecte. Le gouvernement espère que ces mots d'apaisement et le contexte de division de la droite lui permettront d'éviter les remous de 2013 contre la loi Mariage pour tous. Pourtant, les réformes annoncées ne sont pas anecdotiques, confie Agnès Leclerc dans un article pour Le Figaro. « Sans surprise, nous dit-elle, le projet de loi prévoit la PMA pour toutes et son remboursement par la Sécurité sociale. Le texte soumis au Conseil d'État, que le JDD a consulté, prévoit aussi d'autoriser l'autoconservation des ovocytes pour les femmes qui veulent préserver leur fertilité afin de procréer plus tard. » Un décret devrait préciser par la suite que cette possibilité est ouverte aux femmes entre 30 ans ou 32 ans et 37 ans. C'est un droit supplémentaire pour les femmes, défend Agnès Buzyn, tout en reconnaissant qu'il faudra éviter que cette nouvelle façon de retarder l'horloge biologique devienne un moyen de pression exercé sur les femmes par des employeurs pour les contraindre à retarder leur projet de maternité. Le sujet le plus délicat du texte, celui de la réforme de la filiation, n'est toujours pas tranché. La prudence est de mise du côté du gouvernement qui délègue au Conseil d'État le soin de donner son avis sur deux scénarios. Ce débat sur la filiation, c'est celui de l'évolution d'une filiation biologique ou, en référence à la biologie, vers une filiation d'intention. Une révolution du Code civil. Pour la première fois en droit français, il faudra dissocier radicalement les fondements biologiques et juridiques de la filiation d'origine en prévoyant une double filiation maternelle, avait averti le Conseil d'État l'année dernière. La reconnaissance du lien avec le couple de femmes reposera sur une reconnaissance de filiation avant la naissance du bébé, explique la ministre de la Santé. Cette dernière se dit aussi favorable à la création d'un nouveau type de filiation qui concernera aussi les couples hétérosexuels qui ont recours à un don. Autrement dit, la filiation dans le cadre d'une PMA avec don sera la même pour toutes. Cette solution prévoit une mention à l'état civil de la manière dont l'enfant a été conçu. Une manière de mettre fin au secret de famille sur la conception des enfants avec donneur. Plusieurs juristes estiment que cette option éviterait une refonte en profondeur du Code civil. Le Conseil d'État, lui, l'avait préconisé, mais uniquement pour les couples homosexuels, afin de laisser la possibilité aux couples hétérosexuels de dévoiler ou non son mode de conception à l'enfant. Agnès Buzyn assure que l'anonymat du donneur au moment du don sera préservé, mais que l'enfant pourra avoir accès à son histoire et à l'identité de son donneur quand il aura atteint ses 18 ans. Fréquence École, association à l'éducation aux médias à la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche. C'est dans le cadre d'une conférence dynamique que l'animateur Christophe Doré intervenait pour l'association sur le thème « Parentalité, accompagner l'usage des écrans à la maison ». Une collaboration avec le pôle information loisirs espace numérique du service jeunesse de la ville. Extrait tout de suite de l'entretien réalisé avec celui-ci.
Fréquence École ne peut pas se prévaloir de venir régler des problèmes qui seraient déjà aigus. On vient plus pour essayer de permettre à chacun, avant que ça devienne problématique, de se poser les bonnes questions, d'envisager les pistes de résolution. un parent qui viendrait me voir en me parlant de quelque chose de vraiment grave arrivé à son enfant, quel que soit son âge, j'ai pas les compétences, je suis pas psychiatre, je suis pas juge, je suis pas, j'ai pas les compétences pour régler quand c'est déjà un problème. Nous, on essaie d'intervenir avant que ça devienne un problème. Alors effectivement, dans ce type de soirée, parfois il y a des choses qui apparaissent. On nous parle de harcèlement, on nous parle de trop de temps passé sur les écrans, on nous parle de consommation de contenu tout à fait inapproprié. Dans ces cas-là, on essaye de discuter, de proposer des pistes, mais j'ai envie de dire que sur ces cas-là, c'est trop tard. C'est pas trop tard pour faire quelque chose, mais c'est moins le boulot de Fréquence École. C'est vraiment, il y a des professionnels pour intervenir. Vous faites venir un plombier pour réparer votre maison, mais vous faites venir les pompiers quand il y a un incendie. On serait plus le plombier que les pompiers.
On apprend effectivement de l'utilisation de smartphones sur ces jeunes qui sont bien sûr une source, on va dire, de divertissement, d'information, mais aussi c'est presque l'utilisation d'un reflet, d'un miroir.
Alors effectivement, on s'étonne parfois de la propension qu'ont les jeunes à diffuser leur image, à la partager, mais quand on réfléchit bien, on constate qu'on fournit à des adolescents en manque de reconnaissance, en manque d'affection, en manque d'attention, des outils qui leur permettent de prendre leur image, parfois même de l'améliorer, ce dont tout le monde rêve, de la diffuser et d'attendre les marques d'affection. Donc c'est une machine à recevoir de l'amour, ou malheureusement à ne pas recevoir quand ça se passe mal. Et donc faut pas s'étonner que les adolescents, effectivement, ils soient si attachés, d'autant plus que ça a remplacé tous les autres appareils que les générations précédentes pouvaient avoir, les baladeurs, les consoles, tout ce qu'on pouvait utiliser pour se divertir. Maintenant, tout dans le smartphone. Donc effectivement, c'est devenu central, mais on a toujours le choix de ne pas fournir trop tôt des smartphones à nos ados.
Alors l'addiction effectivement qui revient avec le jeu vidéo et aussi sa violence qu'elle peut entraîner.
C'est très compliqué de parler de ces choses-là parce que si je vous dis qu'en général, que globalement on constate qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de contenu violent et les passages à l'acte, il y aura toujours quelqu'un qui, de bonne foi, et il aura probablement raison, me sortira un cas où c'est arrivé. Nous, le discours qu'on essaye de porter, c'est que une consommation raisonnable de contenu adapté à l'âge des enfants n'est pas de nature à susciter des comportements violents. Après, vous faites jouer à des jeux abominables à des enfants très petits, vous leur permettez de le faire 12 heures par jour, je serais évidemment pas aussi catégorique. N'empêche que le lien entre consommation de contenu violent et passage à l'acte violent n'a jamais été établi.
Le problème est ailleurs.
Ce qui est vrai, c'est que ces écrans peuvent servir de révélateurs. Ces écrans sont...
Déclencheurs,
je ne sais pas. Ils peuvent être des symptômes, des mauvaises... Des pratiques excessives peuvent être des symptômes de mal-être par ailleurs. Ça paraît aller un peu vite en besogne que de considérer qu'effectivement, ce sont ces médias, les jeux vidéo ou les films violents qui génèrent des serial killers ou des gens particulièrement violents.
Le contrôle parental, est-ce une bonne chose ?
Le contrôle parental, dans certaines situations... Et probablement la seule solution, je pense notamment aux familles monoparentales avec beaucoup de trajets, beaucoup d'heures de travail et des enfants qui pourraient être livrés à eux-mêmes à la maison, on se rend bien compte que dans ce cas-là, le problème, c'est justement qu'ils soient livrés à eux-mêmes. C'est bien souvent pas du tout la faute du parent, mais plus la société dans laquelle on évolue. De mon point de vue, comme son nom l'indique, le contrôle parental devrait être exercé par les parents. Les logiciels et les techniques qui existent pour contrôler peuvent être des aides, j'allais dire des prothèses, mais c'est vraiment la dernière solution, celle qui est en dernier recours, mais probablement pas le point de départ d'une discussion autour des usages médiatiques de ces enfants.
Et puis une grande question, le cyberharcèlement.
Le cyberharcèlement est effectivement une question qui revient très souvent, que ce soit dans les conférences avec les parents ou bien dans les établissements scolaires. C'est probablement l'avatar du numérique qui est le plus réel par rapport aux dangers supposés. Simplement, il faut bien garder à l'esprit que avant d'être cyber, c'est du harcèlement, que le harcèlement existait bien avant les environnements numériques, que les réseaux sociaux, Internet, permet au cyberharcèlement de perdurer. Auparavant, on sortait de l'école, c'était fini. Maintenant, ça nous suit à l'école, si bien sûr on a un smartphone à disposition. Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Il faut jamais oublier que la solution au problème de harcèlement, c'est dans l'établissement, c'est sur le terrain avec les personnes qui sont impliquées, avec les adultes qui peuvent intervenir. Et la solution, elle n'est pas en ligne.
C'était Christophe Doré de Fréquence École, association à l'éducation aux médias, qui intervenait dans le cadre d'une conférence à la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche, en collaboration avec le pôle information loisirs espace numérique du service jeunesse de la ville. Nous recevons Jean-François Bonin. Il est responsable France Alzheimer de l'antenne de Villefranche, véritable pôle d'information et d'orientation pour les aidants familiaux, comme il nous l'explique tout de suite.
Les associations départementales France Alzheimer ont été fondées par des familles ayant en charge un patient atteint d'une maladie, de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Donc nous accueillons ces familles, ça c'est la première chose que nous faisons. Nous sommes d'ailleurs formés pour ça en tant que bénévoles. Puis nous les orientons vers divers soutiens d'ordre psychologique, donc soutien psychologique individuel, ce que Nelly fait pour nous. Des soutiens par petits groupes, appelés groupes de parole. Et puis enfin, nous avons les formations destinées aux aidants, 14 heures de connaissance de la maladie, de conduite à tenir, ce qu'il faut faire au point de vue sollicitation pour des aides, etc., etc. Ce que nous faisons à Villefranche.
L'antenne France Alzheimer Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône est située au 114 rue de Belleville, à Villefranche. Des bénévoles à votre écoute, mais également des sessions de formation pour les familles ou encore des groupes de soutien, groupes de parole, et une orientation possible en soutien psychologique individuel. Plus d'infos, alzheimer69.beaujolaissaune@gmail.com. Et pour conclure cette édition, un nouveau clin d'œil à l'une des 10 artistes femmes qui sont à l'honneur à l'Espace Cornille jusqu'au 22 septembre, annexe du musée Paul Dini à Villefranche. C'est sous le thème « Elle, question de genre » que se présente la nouvelle exposition « Un été contemporain 2019 ». Rien n'est jamais tranché franchement pour l'artiste Florence Raymond et ses personnages semblent évoluer dans un environnement éphémère et insaisissable qu'elle nous dévoile à peine. Florence Raymond, j'allais dire, une atmosphère en tous les cas dans vos œuvres d'éphémère, tout à la fois évanescent, avec cette idée de disparition peut-être petit à petit des personnages, est-ce que...
Oui, tout à fait. Ça part de photos de famille, plus exactement des diapositives de mon père que j'avais fait développer. Et en fait, comme je me rappelais plus de rien, j'ai essayé de recomposer des scènes qui étaient comme des scènes un peu spectaculaires, magiques, merveilleuses du monde de l'enfance, où en fait ça parlait de souvenirs. Et donc pour moi, le souvenir, c'était quelque chose un peu qui apparaît, qui disparaît, un peu évanescent.
Mais quel est finalement votre univers, on peut dire ? C'est toujours ce côté familial qui vous anime, en fait ?
Oui, moi, je travaille beaucoup de la famille, de l'enfance et de ce qui fait la protection. Voilà, comme par exemple la Vierge au manteau, ça, c'est mon nouveau travail. C'est qu'est-ce qui protège, qu'est-ce qui fait maison ?
Oui. Parce que, pour quelles raisons, est-ce que l'on peut, je ne sais pas, on ne peut pas bien l'expliquer, mais...
Parce que je suis quelqu'un de très sensible, et très sensible au monde, et c'est vrai que l'histoire de la protection, d'être à l'intérieur, dehors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Alors comment interpréter effectivement votre Adam et Ève, me semble-t-il ?
Oui. Dans le nouveau travail, je résumais un peu ce qui m'animait, c'est-à-dire la vie qui surgit, la vie rayonnante, ensoleillée par la couleur jaune, qui est pour moi une couleur très compliquée à gérer en peinture, à la fois séduisante et à la fois vraiment asphyxiante. Et quelque chose qui serait de l'ordre de casser un désir, couper un jaillissement, et qui serait plutôt de l'ordre du marron.
Ah oui.
Voilà. Et Adam et Ève, pour moi, c'était post-attentat. Et c'était essayer d'avoir un sursaut de vie et avoir encore envie de vivre et de faire des enfants. Et de parler de spectacle, violence, vie et mort.
Une nature sauvage et fuyante. Des paysages hostiles ou féeriques, mais également des scènes plus intimes où le monde de l'enfance joue un rôle prépondérant pour l'artiste Florence Raymond. Florence Raymond fait partie des 10 artistes à l'honneur pour cette nouvelle exposition d'un été contemporain sous le thème « Elle, question de genre ». Jusqu'au 22 septembre à l'Espace Cornille, annexe du musée Paul Dini à Villefranche. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.